Salut à tous, c'est Génération Manga, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors ce soir dans Génération Manga, on va parler de muscles, de testostérone. Alors on va à travers cette émission refaire un petit peu, redécouvrir l'univers de ces barbares et de ces monstres dans différentes œuvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que Conan, c'est l'œuvre majeure pour tous les fans de barbares ou autres héros musclés, puisque c'est celle qui comporte le plus d'œuvres sur supports différents. Il y a eu de la bande dessinée, de nombreux films, des dessins animés, bien entendu, ça on en parlera, cela va de soi, mais aussi des jeux de rôle, des jeux de plateau, des jeux vidéo, enfin bref, tous les supports possibles et inimaginables pour retrouver cet univers. Alors, Conan le barbare, ou Conan le Cimérien, c'est le titre original de l'auteur. Il faut savoir que c'est un personnage qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui est assez ancien, puisqu'il a été créé en 1932 par Robert Howard, donc américain. Et les histoires ont été publiées, donc début des années 30, dans un magazine américain qui s'appelait Pulp Weird Tales. Donc on a pu découvrir Conan. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Conan n'est pas le premier barbare de l'histoire. Le premier, en fait, s'appelle Kull. Oui, Kull, Kull pour les Anglais. Et donc, il a été créé par ce même Robert Howard, qui quelques années plus tard créera donc, le fameux Conan. Donc, c'est en 1929 que Kull, ou Kull, comme vous voulez, le roi barbare a été créé. Et donc, ça a donné naissance vraiment aux prémices de ce que seront après les héros de Heroic Fantasy. Hein. C'est vraiment le pionnier, ce fameux roi, suivi par Conan. Et donc, ce même héros, qui venait de l'Atlantis, donc, a fait son apparition aux États-Unis en 1929, toujours dans le même magazine dont on parlait tout à l'heure, qui accueillera quelques années plus tard, 3 années plus tard exactement, Conan. Donc, ce personnage, donc, il se situe à ce qu'on appelle l'âge hyborien. Alors, l'âge hyborien, c'est entre la chute de l'Atlantide et l'essor d'anciennes civilisations, hein, comme l'Égypte antique, la Grèce, vous voyez un petit peu, vous repérez. Et donc, Conan intervient un petit peu après. Donc, si on veut faire une chronologie, finalement, du monde imaginaire de Conan, on se retrouve dans un monde préhistorique, pré-cataclysmique. Juste après donc Kull, le fameux donc, roi barbare, et se situe 20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a un cataclysme, l'Atlantis et les cités autour sont englouties, et peu de temps après, donc la disparition de l'Atlantis, on arrive à l'âge hyborien, c'est la fameuse époque de Conan le Cimérien. Voilà, donc c'est un petit peu fantasmagorique tout ça. Ce sont les prémices de ce qu'on appellera après l'Heroic Fantasy, qu'on va retrouver en jeu de rôle, en différentes BD, etc. Et donc cet auteur meurt rapidement en 1935, et il va falloir attendre des années avant que finalement on reprenne ses nouvelles et qu'on réadapte le monde de Conan. Alors la première apparition est assez récente finalement par rapport aux États-Unis de Conan, la première édition française, donc là on parle bien de romans, hein, de livres, pas encore de bande dessinée. C'était en 1980 aux éditions Lattès, qui a été réédité également, donc ces fameux livres, par J'ai lu en 1984. Alors la petite originalité, surtout plutôt sympa pour les collectionneurs, c'est que les couvertures étaient illustrées par le fameux Frank Frazetta. Donc Frank Frazetta, un très grand artiste, très grand dessinateur, dont on parlera après. Vraiment un artiste qui connaissait vraiment tous les supports, peinture, bande dessinée, art plastique, etc., qui était exceptionnel et qui a vraiment participé à l'engouement, au succès de Conan. Donc bien entendu, après, nous avons droit aux bandes dessinées. Alors les bandes dessinées, elles sont arrivées chez Marvel Comics, puis chez Dark Horse Comics. Alors, en France, elles ont été éditées aux éditions Lug. Hein. Chez Marvel, c'était pour les USA. Ainsi qu'aux éditions Aredit Artima. Et puis ensuite aux éditions Panini Comics. D'où le travail collaboratif de Hachette qui a fait appel à Panini, puisqu'à l'époque, ils avaient déjà donc, édité les bandes dessinées. Alors les premières traductions françaises de la bande dessinée était en petit format, donc ces fameuses bandes dessinées noires et blanches que vous avez tous vues et qui étaient plutôt, il faut bien le dire, destinées aux adultes. Alors Conan, c'est aussi des films, bien entendu. des films qui ont révélé un acteur qui deviendra par la suite mythique dans ce genre de film. Je veux bien entendu parler de Arnold Schwarzenegger. Là, c'est vraiment ses prémices en termes de succès au cinéma. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Conan, il n'y a eu que deux films avec Arnold Schwarzenegger, mais au départ, ça devait être une saga. Le producteur voulait vraiment faire quelque chose à la sauce James Bond, avec des films récurrents qui viennent tous les 2-3 ans, etc. Parce qu'il voulait surfer sur un succès commercial. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ces films sont arrivés début des années 80. Ils ont eu un succès mitigé, puisque la plupart des fans déjà américains avaient donc connu Conan depuis des années, avaient eu droit au roman, à la bande dessinée, etc. Il y avait des choses qui faisaient beaucoup plus rêver, comme le Star Wars, même si c'est des mondes différents, mais c'était déjà du réchauffé un petit peu pour eux, Conan. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le producteur, Dino De Laurentiis, visait vraiment le succès aux USA. Bon, ça a bien marché un petit peu en Europe aussi, dans d'autres pays, mais au niveau de l'investissement, ce qui a posé après des problèmes pour faire les autres films, c'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une suite, finalement, n'a pas été au rendez-vous, le succès qu'il laisse compter. Pourtant, Dino De Laurentiis, c'est quand même un sacré producteur à qui l'on doit quelques pépites, quelques chefs-d'œuvre du cinéma, notamment Barbarella en 68, le film de Roger Vadim, le King Kong 76, le plus connu de tous, le Flash Gordon, mais aussi Dune, le fameux film Dune. Donc, vous voyez, avec quand même du lourd, c'était quand même un sacré producteur. Et donc Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger, ça nous arrive en 1982. Donc c'est la première adaptation cinématographique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si elle intègre le personnage de l'auteur original, donc Howard, qui est Conan, le scénario est complètement inédit et ne s'inspire absolument pas des textes, des romans de l'auteur original. C'est important. Autre détail aussi assez croustillant, c'est que le scénario de John Milius a été fait en collaboration avec un certain Oliver Stone. Oliver Stone, vous connaissez, vous êtes fan de cinéma, autre grand cinéaste et réalisateur américain. Et donc, par la suite, nous aurons droit en 84 à Conan le Destructeur. Alors tout de suite, ce que je vous propose, c'est de retrouver un des thèmes, si ce n'est le thème principal, donc de Conan le Barbare, le film, avec Arnold Schwarzenegger. Vous allez voir, superbe musique. Et bien entendu, on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. La musique de Conan le Barbare, premier film de la série avec Arnold Schwarzenegger, donc film de 1982. La suite interviendra en 84, 2 ans après seulement. Donc on change de réalisateur, là c'est Richard Fetcher, toujours avec Arnold Schwarzenegger, ça s'appelle Conan le Destructeur. Une musique de Basil Poledorowicz, comme pour le premier film. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un autre film en 2011, alors on passera ce film, puisque on va dire la qualité est plus que moyenne, même s'il y a pas mal d'effets spéciaux, donc c'est Conan the Barbarian, Conan le Barbare, de Marcus Nipsel avec Jason Momoa, compliqué à dire, et donc c'est un film qui, pour les fans, est un AV, qui n'est franchement pas terrible, même s'il est bien réalisé, c'est poussif au niveau du scénario, au niveau de l'action, bref. On passera sur ce film. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux œuvres de l'auteur, l'auteur dont on parlait tout à l'heure, Robert Howard, d'autres films ont été adaptés donc de ses nouvelles, puisqu'il a, quand même donc, réalisé, écrit d'autres choses, notamment, donc, comme je vous le disais, Cool le premier barbare, Cool the Conqueror, le conquérant, donc film qui a été réalisé en 1997. Mais auparavant, il y avait eu toujours avec Arnold Schwarzenegger, Kalidor en 85. Alors pourquoi je vous parle de ces films? Puisque contrairement à Conan, où un scénario complètement indépendant des romans d'origine avait été mis en place, pour Kalidor et Cool le Conquérant, on a vraiment respecté les écrits de Howard, donc l'auteur original. C'était important de le souligner. Alors on apprend... En octobre 2012, hein, c'est pas si vieux finalement, qu'un producteur voudrait faire un remake de Conan qui s'appellerait The Legend of Conan, dans lequel Arnold Schwarzenegger reprendrait le rôle-titre. Bon, c'est vrai que la presse a été un petit peu dubitative à l'époque, parce que notre ami Schwarzy commençait à être âgé quand même. Et donc le projet finalement n'a pas eu lieu, faute de budget, à croire que les sociétés ne croyaient pas en ce projet. C'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions des années après. Est-ce qu'il y a encore un engouement suffisant pour Conan et faire un film? Rien n'est moins sûr. Donc on verra, peut-être qu'un jour ce projet ressortira des cartons. En tout cas, pour l'instant, ça reste à l'état de projet. Alors Conan, ce n'est pas seulement des films. C'est aussi des dessins animés, oui, il y a droit à ce support, et notamment un dessin animé qui s'appelle Conan l'Aventurier. Alors ça, c'est une série qui est chère à notre cœur, à Génération Manga, tout simplement, puisqu'elle a été initiée, réalisée et créée par les fondateurs de la DIC, à savoir Jean Chalopin et Bernard Derriès. C'est Bernard Derriès, d'ailleurs, qui s'est beaucoup investi donc, sur la réalisation de cette série. Alors c'était destiné plutôt à un jeune public, hein, il faut bien le dire. C'est quand même de très bonne facture. Ça retrace la vie de Conan, bien entendu, d'une manière un petit peu libre, on va dire. Et la première fois, ça a été diffusé sur M6, puis après sur la chaîne Manga. Il y a également eu une bonne série de jouets à l'époque. Hein. C'était aussi souvent le cas avec les séries de la DIC. Rappelez-vous, par exemple, donc de Jace, où il y avait eu les monstres aux plantes, etc., ou encore Ulysse. Alors, ce que je vous propose... c'est de retrouver, avant qu'on parle un petit peu de plus de cette série, le générique de Conan l'Aventurier. Alors c'était chanté par notre Bernard Minet national, bien entendu. C'est un titre qu'il joue actuellement, qu'il chante, qu'il interprète même, on va dire, c'est plus approprié, dans les conventions, quand il fait des concerts, et le public accroche plutôt bien. C'est vrai qu'elle est plutôt sympa, cette chanson, ce générique, donc je vous propose tout de suite de l'écouter. Conan l'Aventurier avec Bernard Minet, c'est parti.
Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal l'étoile, il mène une lutte fantastique.
C'est le courage.
Conan l'Aventurier, donc générique interprété par Bernard Minet, série animée qui est donc arrivée la première fois donc, sur M6 en 92, donc rediffusée après sur la chaîne Manga, et donc réalisée par le très grand Bernard Derriès, Bernard Derriès qu'on ne présente plus, qui est à l'origine également, en partie en tout cas, qui a activement travaillé sur les séries de la digue des Cités d'Or, du Lys 31, avec son comparse Jean Chalopin, c'est les Entrechats, Inspecteur Gadget, toute une multitude de séries vraiment de qualité, pour ne pas dire de pépites, les seules à l'époque qui étaient capables de rivaliser avec les Hanna-Barbera américains, etc. Vraiment des séries cultissimes qui ont encore gardé un grand coup de cœur pour les fans, puisque lorsque Bernard Derriès se retrouve dans les conventions, comme pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs à Geek Universe qu'on salue, qui a fait un superbe salon pendant 2 jours avec de nombreux invités, le succès au rendez-vous pour Bernard Derriès, qui est vraiment adorable, hein, qui a dédicacé et fait des dessins tout au long de la journée, et qui a également participé à une conférence sur l'animation, notamment où il faisait référence aux fameuses années des mystérieuses cités d'or. Voilà, Bernard Derriès, qu'on espère retrouver bientôt dans une convention pour le rencontrer, pour ceux qui ça n'a pas déjà été fait, voire discuter. C'est toujours un plaisir, hein, il prend du temps, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Alors, pour continuer à parler d'adaptation de Conan, sachez qu'il y a eu une série live également, une série américaine, en 22 épisodes de 43 minutes. Et là, pour le coup, série qui respecte les textes, les romans de Robert Howard, l'auteur d'origine, et donc qui a été diffusée aux États-Unis la première fois le 22 septembre 1997. En France, on a eu ça quelques années plus tard, en juillet 2000. Donc c'était plutôt sympa, c'était sur France 2, une série que je vous conseille. En parlant d'animé, on a eu également Un autre barbare, hein, donc en France. Autre série américaine, Harok le Barbare. Alors la particularité d'Harok le Barbare, contrairement à Conan qui lui se situe vraiment dans le passé, l'action d'Harok, elle se situe dans le futur. Donc avant de vous parler du scénario, je vais vous parler un petit peu de l'équipe qui a réalisé cette série d'animation. Il y a 21 épisodes de 24 minutes. Ça a été créé par Joey Ruby et surtout produit par Robispear Productions. Je vais y arriver. Alors, qui est Robispear Productions? Ils sont à l'origine de plein de séries que vous avez sûrement adoré regarder à la télé. C'est par exemple Alvin et les Chipmunks, hein, donc le dessin animé, la première série, attention. L'adaptation animée de Rambo. Police Academy aussi, pour ne citer que ces séries. Et donc, le titre original, c'est Thunder the Barbarian. Donc Thunder le Barbarian. Il ne s'appelle pas Harok. Alors je ne sais pas pourquoi il s'appelle Harok chez nous. En tout cas, aux États-Unis, le nom original, c'est Thunder le Barbare. Et donc en France, on a eu droit à la série à partir du 21 septembre 83 dans l'émission Vitamine sur TF1. Vous vous rappelez tous bien sûr de Vitamine. On avait un joli casting au niveau du doublage, puisque Philippe Auguz a prêté sa voix à Rock sur la majorité des épisodes, puis Gérard De Salle sur quelques-uns. On avait Francine Lainé, hein, très grande actrice également et comédienne, pour le rôle de Selena. Et le regretté Francis Lax pour Torque. Rappelez-vous Torque, qui nous fait penser un petit peu à Chewbacca, hein, par moment. Donc, comme je le disais, la particularité de la série, c'est qu'elle se situe dans le futur, contrairement à Conan, qui est un monde ancien, comme on le disait tout à l'heure. Alors, pour vous résumer un petit peu la situation, ça se passe en l'année 1984. Ah oui, autre détail important. Dans la version américaine, on précise bien que l'action, parce qu'il va y avoir une histoire de comète, je vais vous expliquer, se passe en 94, pardon. Alors que dans la version française, c'est assez vague, on dit fin du XXe siècle, enfin un truc dans ce style-là. Voilà, je vais y arriver. Et donc, à cette période, une comète surgit dans l'espace, elle scinde la Lune en deux, hein, ça rigole pas, et ça provoque un immense cataclysme sur la Terre. Du coup, la civilisation humaine est réduite à néant, hein, donc il n'y a plus d'hommes, c'est terminé. Il faut attendre 2000 ans plus tard, donc là, pour le coup, on est vraiment dans le futur, pour que un monde finalement humain renaisse de ses cendres. Alors, c'est un monde assez étrange, en fait, hein, où les gens sont assez sauvages, il y a de la science, il y a de la sorcellerie, hein, on est vraiment dans l'heroic fantasy. Mais il y a un homme qui se soulève pour combattre l'injustice. Donc c'est notre ami donc Harok avec ses compagnons. Et donc il veut ramener un petit peu la sérénité sur la Terre et surtout combattre les méchants. Alors c'est une série qui est plutôt sympa, hein, c'est bien fait. C'est assez court les épisodes finalement, mais c'est vraiment très 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 agréable à regarder. Alors particularité, c'est vrai qu'il y a eu un générique français, par contre générique qui est complètement, complètement introuvable. Donc pour cette raison, malheureusement, on ne pourra pas vous le diffuser. C'est un petit peu dommage quand même. Mais c'est un générique, pour la petite histoire, qui a été enregistré à la va-vite dans un studio. Et donc, comme d'habitude, la bande a été perdue, sachant qu'à l'origine, il n'avait pas pour but d'être commercialisé et sortir en 45 tours. Donc, ce qui explique, qui n'excuse pas en tout cas, mais ce qui explique un petit peu la chose. Donc, Harok le Barbare, qui n'est pas disponible non plus, malheureusement, en DVD, décidément, les soucis avec cette série en France. C'est sorti aux États-Unis, donc c'est de la VO, par contre. Vous pouvez trouver ça sur Amazon, donc Amazon.com, l'Amazon américain. Et vous avez l'intégralité, donc les 21 épisodes, en DVD. Par contre, c'est en VO, donc si vous êtes anglophone, ça ne vous posera pas trop de problèmes. Par contre, si vous captez que dalle, ça va être compliqué, sachant qu'il n'y a aucun sous-titre. Donc c'est vraiment dommage. Alors, vous pouvez retrouver quelques épisodes sur le tube ou sur le net, si vous cherchez un petit peu. Si vous ne connaissez pas, ça peut être une bonne approche pour vous familiariser et peut-être apprécier cette série. Alors également pour cette série, il y a eu des jouets hein, qui sont assez rares à trouver, parce que c'était une série limitée, on en a déjà d'ailleurs parlé dans l'émission, et qu'on retrouve de manière assez chère maintenant sur les sites d'enchères, sur la baie et compagnie. Comme d'habitude, il ne faut pas s'étonner. Alors il y a un autre animé qui met en scène un monde de barbares, etc., qui est un chef-d'œuvre. Par contre, c'est un film de cinéma. Oui, on peut appeler ça un chef-d'œuvre. Ça s'appelait chez nous Tigra, la glace et le feu. Ça s'appelle tout simplement Fire and Ice aux États-Unis, donc feu et glace, alors que chez nous, on a appelé ça Tigra, la glace et le feu. Bref, c'est un film d'animation, donc américain, qui est réalisé par Ralph Bakshi, le même qui, en 78, avait, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, réaliser ce somptueux dessin animé du Seigneur des Anneaux, qui était vraiment d'un réalisme et d'une beauté au niveau de la réalisation à tomber par terre. Et donc pour Tigra, donc Fire and Ice, il a commis cette œuvre gigantesque avec l'illustrateur Frank Frazetta. Frank Frazetta, on en parlera dans un instant, c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, un artiste exceptionnel, vraiment exceptionnel, un des plus grands à découvrir. Le film est sorti en 1983 et la particularité, c'était la réalisation technique de ce film puisque ça reste un long métrage d'animation, mais ça a été réalisé avec la technique qu'on appelait à l'époque la rotoscopie. Alors, qu'est-ce que c'est la rotoscopie ? En fait, vous prenez des acteurs, des vrais acteurs en chair et en os, vous les filmez image par image, donc 24 images secondes imaginées pour un mouvement, et vous retranscrivez tout ça avec des dessins, superposant des dessins. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la technique. C'est ce qui donne ce réalisme. C'est vrai, quand on regarde Tigra, que ce soit au cinéma ou chez soi d'ailleurs, on est vraiment scotché par la réalisation. On n'a pas l'impression que ce sont des héros animés. On a presque l'impression que ce sont des acteurs, tellement ils bougent d'une manière réelle. C'est vraiment exceptionnel. Alors, la réalisation est à tomber, la musique aussi. C'est vraiment une œuvre que je vous conseille. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez trouver en DVD. Hein, c'est toujours dispo sur les sites de vente en ligne. Ça reste un collector à garder précieusement dans sa collection de films. Si vous aimez les barbares, si vous aimez les animés vraiment bien faits, les ambiances un peu sombres, etc., c'est fait pour vous. Ne serait-ce que pour la réalisation, je vous conseille vraiment de le voir ou de le revoir. Je ne pense pas qu'on ait fait mieux dans le domaine. Alors avant de parler du scénario de Tigra, ce que je vous propose, qui s'appelle Fire and Ice, je vous le rappelle, donc aux États-Unis, je vous propose de retrouver quelques extraits du soundtrack. Là encore, il y a vraiment une bande-son exceptionnelle. Il ne faut pas passer à côté. Donc tout de suite, je vous propose d'écouter quelques BGM, on dirait, s'il s'agissait de séries japonaises, musique d'ambiance donc de Fire and Ice, qui s'appelait chez nous Tigra, la glace et le feu. C'est parti. Tigra, donc la glace et le feu, le soundtrack. extrait du soundtrack de Tigra, La glace et le feu. Alors, je vous conseille vraiment, c'est une superbe BO, hein, comme le film, de redécouvrir ces musiques ou tout simplement de le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Alors, sachez que l'intégralité des musiques est disponible en CD collector, un CD qu'on a du mal à trouver puisqu'il avait été en série et limité, 1000 exemplaires, et vendu seulement aux États-Unis. Mais vous pouvez le trouver parfois sur des sites d'enchères ou alors sur lazone.com. Sans problème, pas très cher, et vraiment une superbe édition avec des CD d'une toute beauté, sérigraphiés, de superbes livrets. Donc si vous êtes fan du film, d'autant plus, il faut vous procurer donc le soundtrack double CD, qui c'est vraiment on va dire l'option indispensable en plus du DVD. Alors je vais vous parler un petit peu du scénario maintenant. Donc de Tigra, La glace et le feu, comme vous l'avez compris, c'est le monde de la glace et du feu qui s'affrontent. Alors Necron, lui, c'est le démon, le maître des glaces. Il enlève Tigra, en fait, qui est la fille du roi Jarol. Et le roi Jarol, c'est le gardien du feu. Alors, il y a le jeune guerrier, Larn, qui est tombé amoureux de la princesse, bien entendu, et qui va combattre Necron pour vaincre donc le maître des glaces et bien sûr délivrer la princesse. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais rien que pour la réalisation, les combats épiques et surtout cette fameuse technique dont je parlais tout à l'heure, technique de réalisation unique, donc Frazetta a beaucoup apporté cette technique de réalisation. Je vous propose vraiment, si ce n'est pas déjà fait, de vous procurer le DVD et de vous refaire un petit Tigra un soir si vous ne savez pas quoi regarder. Vraiment, ça reste une œuvre exceptionnelle. Il faut le voir. Hein. Et puis tant qu'à faire, vous pouvez voir Le Seigneur des Anneaux aussi qui a été fait par la même équipe. Alors je vais quand même, comme je disais tout à l'heure, parler un petit peu de Frazetta. Frazetta, c'est un artiste exceptionnel qui nous a malheureusement quittés en mai 2010, à 82 ans. Il a beaucoup œuvré hein, dans tout ce qui est le comics américain, mais il ne s'est pas limité à l'art graphique. Hein. Loin de là, il était également surdoué en peinture, en sculpture, vraiment est touché à tout. On le connaît surtout pour ses réalisations, pour des couvertures de romans ou de bandes dessinées. Donc, il a participé à certaines versions de Tarzan, à Vampirella et aussi également à Conan le Barbare. Il a également réalisé donc des pochettes de disques, principalement pour des groupes de rock ou de hard rock. Il a vraiment ce style très réaliste que les gens apprécient vraiment. On ne peut pas faire mieux en termes de réalisme, d'art graphique. Vraiment, ça reste l'un des maîtres pour énormément de dessinateurs et d'autres artistes à travers le monde. Je vous conseille vraiment de découvrir son œuvre, si ce nom ne vous dit rien. Frank Frazetta, donc allez voir sur Google. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire le travail qu'a fait cet homme. Ce serait dommage de passer à côté. Si on parle donc de films de barbares, sachez que beaucoup de réalisateurs se sont essayés à cette œuvre. Alors, on a beaucoup de choses, hein, même des nanars, bon, bref, comme d'habitude. On a répertorié à Génération Manga 37 films différents de barbares dans l'histoire du cinéma. Ce n'est pas exhaustif, mais on parle vraiment des 37 qui sont un petit peu connus du grand public. Alors, là-dedans, on retrouve pas mal de choses. On retrouve du Darl Invincible, par exemple, du Kalidor. Hathor, trois films d'Hathor, et oui. Et puis une petite particularité, The Barbarians en 87, avec deux frères dans les rôles des barbares, Peter et David Paul. Alors Peter et David Paul, c'était deux frères américains qui faisaient du bodybuilding et qui ont été remarqués pour leur formidable musculature. Et donc un film bon, qui est regardé vraiment au second degré, c'est limite nanar, c'est fait sur le ton humoristique, mais c'est moins sérieux que du Conan, mais c'est assez rigolo, c'est sympa. Donc, à regarder, quoi, on passe un bon moment. On va dire c'est une sorte de parodie de ces univers-là. Alors, je vous propose, par contre, de retrouver la musique principale donc, de The Barbarians. C'est une musique de Pino Donaggio. La musique est plutôt pas mal. Je dirais même qu'elle est assez bien. Ça serait dommage de passer à côté. Donc, je vous propose tout de suite de retrouver le thème principal de The Barbarians avec les frères Paul. Peter et David Paul en 87. Ça aussi, vous pouvez retrouver en DVD. Donc, si vous avez envie de vous éclater, par contre, bien rigoler, c'est fait pour vous. tiré du soundtrack du film The Barbarians avec les frères Paul, et oui, les deux frères qui faisaient du bodybuilding, et repérés en 87 pour commettre ce petit nanar, on va dire. Film qui est plutôt sympa, mais à voir, pour, franchement, pour se marrer, hein, rien à voir avec le très sérieux et sanglant univers du Conan de Schwarzenegger, hein, par exemple. Mais bon, c'est rigolo, ça fait pas de mal de temps en temps. Alors, voilà, notre tour d'horizon du monde des barbares se termine. Alors, je vous rappelle, Hachette Collection, qui publie depuis quelques semaines cette fabuleuse collection, justement, c'est le cas de le dire, The Savage Sword of Conan, l'épée sauvage de Conan, réalisée en collaboration avec Panini Comics, hein, Panini Comics qui avait été à l'origine donc notamment de rééditions BD déjà de Conan, donc ils savent de quoi ils parlent. C'est vraiment une superbe collection de grande qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de bonus, hein, plus de chaque, dans chaque recueil. Vous avez tout l'univers de Conan qui est répertorié, il y a des dossiers, il y a la biographie des auteurs, et surtout la reproduction originale des couvertures des comics d'époque. Bon, pour chaque numéro, je vous rappelle, il y a 70 numéros, donc ça risque d'être un petit peu coûteux, mais c'est vraiment une belle collection, vraiment pour tous les fans, vraiment pour tous les fans. Alors, le tour d'horizon ne serait pas complet si on ne parlait pas d'un certain Musclor. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Musclor, c'était pas un prince, c'était un prince, c'était pas un barbare. Alors, pas tout à fait, mais c'est vrai que sa musculature, hein, Musclor des maîtres de l'univers, n'avait vraiment rien à envier à tous les héros que l'on vient de citer. Et puis, l'univers était quand même assez proche, hein. Sachant que ça a toujours été culte chez nous, Musclor les maîtres de l'univers, je vous propose de retrouver donc le fameux générique réalisé par l'équipe de Saban à l'époque. D'ailleurs, on peut entendre Noam Cagniel dans les chœurs. Et donc, voilà, le fameux générique de Musclor les maîtres de l'univers qui s'appelle He-Man, bien entendu, comme vous le savez, aux États-Unis. Tout de suite, donc, le fameux générique de notre ami Musclor. Générique de Musclor, les maîtres de l'univers. Alors, comme je le disais, dans les chœurs, on peut entendre Noam Cagniel, donc qui avait chanté le fameux générique de Goldorak en 78, les entrechats, enfin plein de choses. Mais aussi Chucky Levy, faut pas oublier Chucky Levy qui est d'autant plus à l'origine de la mélodie de ce titre. Donc on va pas l'oublier, l'ami Chucky. Je vous laisse en compagnie d'un autre héros, donc Dick Turpin, rien à voir avec les barbares et l'émission de ce soir. Dick Turpin, ce grand héros donc anglais, si british, qui arpentait les chemins pour détrousser les caravanes et autres pèlerins et autres. Donc une série dont nous avons parlé, je vous conseille d'ailleurs sur le podcast de retrouver l'émission où on explique un petit peu la genèse de ce personnage entre mythe et réalité, ce qui était vrai, ce qui était moins, tous les secrets de la série. Et on va se quitter en compagnie du générique. C'est vrai qu'il y a une belle musique, un thème qu'on apprécie particulièrement. Et je vous dis à bientôt.